Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers auditeurs.
Alors Daniel, ravi de vous retrouver comme d'habitude pour une nouvelle conversation. Et cette fois-ci, on va revenir un petit peu sur ce dont on parlait déjà la semaine dernière après la visite du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, visite sur le Mont du Temple, qui a suscité un certain nombre de réactions internationales. Alors, on avait déjà évoqué avec vous combien le nouveau gouvernement israélien, par ses comportements réels et supposés, entraînait des réactions dans le monde. Vous nous aviez expliqué les relations politique intérieure, politique extérieure et toute cette semaine, malheureusement, et eh bien dans les médias, notamment dans le journal Le Monde, il y a eu toute une série d'articles et de commentaires assez agressifs envers Israël. Daniel, est-ce qu'on peut revenir là-dessus?
Oui, il faut revenir là-dessus parce que quand on voit des campagnes orchestrées par un certain nombre de journaux qui sont d'ailleurs tous les mêmes et qui font partie d'un consortium de journaux de gauche, on peut dire, qui ont beaucoup de cibles, dont Israël en particulier, il faut s'interroger. Et mon analyse, c'est que en réalité, on se trouve en présence d'une véritable stratégie du mouvement palestinien, qui est évidemment aidé par ses alliés souvent très très puissants, qui sont les médias et bien d'autres. Donc je voudrais au fond essayer de vous détailler cette stratégie du mouvement palestinien pour qu'on comprenne pourquoi tous ces articles, pourquoi cette effervescence anti-israélienne aujourd'hui à l'occasion de ce nouveau gouvernement. Si vous voulez, aujourd'hui, le mouvement palestinien a adopté une triple stratégie. La première, c'est une stratégie de grignotage sur le terrain dont on parle très peu, qui consiste en fait à des constructions illégales dans beaucoup d'endroits. Vous savez que les accords d'Oslo avaient divisé ce qu'on appelle la Cisjordanie en territoire A, B et C. Donc il y a des règles. Et donc très lentement, subrepticement, les Palestiniens enfreignent les règles, construisent souvent avec l'argent des Européens, l'argent officiel des Européens ou l'argent d'ONG pro-palestiniennes, construisent des bâtiments illégaux qui sont immédiatement évidemment détruits parce qu'ils sont illégaux par Israël. Et évidemment, tout de suite, les caméras sont là, on les branche et on montre combien les méchants israéliens détruisent les missions de ces Palestiniens bien pacifiques. Donc ça, c'est une première stratégie dont on parle peu, mais qui est récurrente, hein, qui est pas nouvelle, mais qui continue. La deuxième, c'est un terrorisme rampant. Ça, c'est une sorte d'intifada qui ne dit pas son nom, avec beaucoup d'attentats, et qui oblige Israël à mener deux actions. La première, des actions de police dans les territoires à la recherche des terroristes, et ils sont obligés d'entrer dans les villes palestiniennes comme Jenin ou Naplouse. C'est extrêmement dangereux et ça cause beaucoup de batailles, beaucoup d'actes violents avec beaucoup de morts. Et évidemment, les médias qui sont anti-israéliens mettent en avant les morts palestiniens comme si Israël allait les tuer pour rien. Et on n'explique jamais vraiment pourquoi la police est obligée de faire ce travail. Il y a une deuxième réponse israélienne qui évidemment déchaîne les passions des anti-israéliens, c'est que les Israéliens qui collectent les taxes douanières au nom des Palestiniens, puisque les Palestiniens n'ont pas de frontière directe avec l'extérieur. Israël remet cet argent aux Palestiniens, mais déduit tout ce que les Palestiniens versent aux familles des terroristes, qu'on appelle des martyrs. Et donc, il y a ici une bataille financière qui est évidemment transformée par les ennemis d'Israël comme ils volent l'argent des Palestiniens. Et puis, la troisième, et c'est la plus importante, évidemment, c'est sur le plan international, porter à chaque fois le plus possible à la connaissance de l'opinion mondiale combien les Israéliens se conduisent mal. Et là, il y a un triple message. Israël viole le droit international. On ne donne jamais à Israël l'occasion de montrer que c'est pas vrai, que le dossier il n'est pas un viol du droit international, c'est plutôt l'autre partie qui l'a violé. Donc il y a cette accusation. La deuxième, c'est Israël est en train de devenir un État non démocratique. Et là, on trouve les Palestiniens trouvent comme support un certain nombre d'Israéliens ou de Juifs, notamment aux États-Unis, qui abondent dans ce sens, la dérive non démocratique d'Israël. Et la troisième, l'accusation qu'Israël refuse aux Palestiniens un État auquel ils ont droit. Donc voilà les trois messages. Alors, où est-ce que ça se passe, ces accusations? Où est-ce que ça se passe? Ça ne se passe pas d'État à État, ça se passe à quatre niveaux. Le premier, ça se passe à l'ONU. L'ONU, c'est l'ennemi numéro un d'Israël. Donc, chaque fois que on veut faire du mal à Israël, on porte l'affaire au Conseil de sécurité, et puis on va du Conseil de sécurité vers soit le Conseil des droits de l'homme, soit de la Cour pénale internationale. On essaye de mettre Israël en accusation, et ça se fait en permanence. Le deuxième lieu où ça se passe, c'est les ONG. Il y a évidemment le BDS, il y a aussi Amnesty. Il alors fait feu de tout bois à chaque fois qu'il le peut, alors qu'au fond, il n'a pas été créé pour s'occuper d'Israël. Et puis, vous avez surtout les médias qui se sont organisés en consortium, qui réunissent tous les journalistes d'investigation. Et Israël, c'est une cible prioritaire des gens qui investissent. Et donc, ça explique pourquoi le Monde fait des pages entières anti-israéliennes, soit des éditoriaux, soit en laissant la place à des juifs américains ou même à des anciens ambassadeurs. Vous avez, il y a une pétition de 100 anciens ambassadeurs israéliens qui disent: attention, nous sommes inquiets pour l'identité démocratique israélienne. D'accord, ils sont inquiets et immédiatement le Monde leur ouvre les pages, et le New York Times en fait autant, et puis tous les journaux dans le monde, Mediapart et d'autres, El País, la BBC, s'engouffrent dans tout ça. Et puis vous avez un quatrième niveau qui sont un certain nombre d'intellectuels, souvent juifs, qui, de bonne foi, s'inquiètent, comme ces anciens ambassadeurs, de ce qu'Israël n'est pas cette démocratie exemplaire. Donc ils préviennent, ils disent attention, etc. Et immédiatement, s'est amplifié pour en faire un élément anti-israélien.
Mais alors, Daniel, on comprend bien tout ça, mais la question c'est pourquoi le mouvement palestinien adopte-t-il finalement cette stratégie?
Écoutez, c'est la dernière possibilité qu'ils ont pour faire du mal à Israël. C'est une stratégie au fond de faiblesse, parce que les autres stratégies ont toutes échoué. La stratégie militaire des États arabes qui refusaient l'existence d'Israël après trois guerres, 48, 67, 73, les États arabes ont renoncé à employer la force, ils ont fait la paix avec Israël. Donc cette stratégie-là a échoué. La stratégie du terrorisme à grande échelle, les intifadas, ont également échoué. La stratégie de la négociation a échoué parce que tout le monde a vu très vite que l'objectif des Palestiniens, ce n'était pas un État à côté d'Israël, mais un État à la place d'Israël, et que l'obtention d'un État palestinien à côté d'Israël, c'était juste une première étape dont l'objectif était d'avoir un foyer, une base, pour passer à la deuxième étape, qui est l'élimination de l'État d'Israël.
Alors Daniel, pour conclure, comment voyez-vous le développement de cette campagne finalement dans les semaines et les mois qui vont arriver?
Écoutez, la campagne médiatique, on ne peut pas l'empêcher, elle continuera. On peut dire que les loups aboient et la caravane passe. Bon, on laisse passer. En fait, ça va dépendre de la réalité des décisions israéliennes. Pour l'instant, on prête aux Israéliens des intentions, mais rien ne se passe. Tous ceux qui ont confiance en Israël ont confiance dans la capacité de Bibi à canaliser ses partenaires, à ne pas aller trop loin. En fait, ça dépendra aussi de l'attitude essentiellement des Américains, des Européens, c'est-à-dire des proches et des alliés d'Israël. Est-ce qu'ils iront très loin dans les accusations anti-israéliennes, ou bien ils comprendront qu'au contraire, il faut continuer à soutenir Israël dans un contexte mondial très 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 compliqué, de confrontation du camp démocratique contre le camp autoritaire, Chine-Russie, la guerre en Ukraine, tout ça, ce sont des éléments tellement importants que on peut penser que les Américains et les Européens reviendront à des analyses tiendront à des analyses plus équilibrées et continueront à soutenir Israël comme il le doit, parce que ce que fait Israël dans sa région va dans le sens positif pour les États-Unis et pour l'Europe. Donc je pense qu'on aura toujours cette campagne médiatique, mais elle n'aura d'effet que si les grandes puissances lui donnaient de l'importance, ce que je crois pas va arriver, mais c'est à suivre et on aura l'occasion, je pense, d'en reparler.
Effectivement, Daniel, merci beaucoup pour tous ces éclairages et toutes ces informations. Comme d'habitude, on vous souhaite une très très bonne semaine et à la semaine prochaine.
Au revoir.